La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure d'Esprit Libre avec Sophie Obadia, Maître Sophie Obadia et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain à 8h avec Jean-Claude Casanova pour l'émission Commentaires. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour David.
Allez, je commence avec vous. Je ne suis pas très galant Jean-Marie Colombani, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Imaginons Jean-Marie Colombani que vous dirigez toujours Le Monde et au lendemain du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, vous devez faire la une et faire le titre de une, qu'est-ce que vous titrez ?
C'est d'abord, avant de titrer, on recueille beaucoup de propositions des uns et des autres. Donc après, c'est une élaboration collective.
Je vous vois arriver.
C'est pas quelqu'un qui décrète comme ça un titre. Voilà. Là, ce qui est manifeste chez Emmanuel Macron, c'était un grand exercice de lucidité et de prophétie de la part du chef de l'État sur ce qu'il pourrait arriver à l'Europe, la mort, si elle ne se ressaisissait pas et si elle ne s'engageait pas dans un programme de retour de, j'allais dire, de souveraineté, de construction d'une véritable souveraineté. Voilà.
Et donc ?
Donc le titre, ce serait Emmanuel Macron face au destin européen ou quelque chose de ce genre.
Eh bien, vous n'avez pas perdu la main, c'est comme le vélo en fait. Hein. Sophie Obadia, je vous demande la même chose pour Libération. Vous êtes rédactrice en chef ou patronne de Libération, vous devez titrer au lendemain du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne.
Bah écoutez, j'ai été très frappée par son instinct de mort et son instinct de vie aussi. Donc je dirais l'Europe ou la mort.
L'Europe ou la mort, c'est pas mal. Il y avait aussi, bah évidemment, la mort ou renaissance. Hein. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors au-delà de ces titres, grand oral européen ou alors et électoraliste ou début de campagne ou finalement pédagogie à l'attention des Français, des chefs d'État d'Europe, discours pour l'histoire même.
Oui, c'est plus un discours pour l'histoire parce que discours électoral, début de campagne, non. C'est la date, oui. Il parle à un moment où se lance où devrait s'accélérer la campagne pour les élections européennes, donc on dit discours de campagne. Il n'y avait rien d'électoraliste dans ce discours, il y avait au contraire beaucoup d'exigences et beaucoup à la fois beaucoup de propositions concrètes adressées aux autres pays européens et adressées aussi à nous-mêmes, mais pas d'attaque, pas de démagogie, pédagogie sûrement. Le problème étant que l'assistance fixait un cadre qui est un cadre quand même à la fois sophistiqué et limité. Emmanuel Macron parle, là il parle tel que l'est lui-même, parce qu'il a un public adapté à la façon dont il parle et à ce qu'il dit. Ça n'est pas le grand public. Et c'est d'ailleurs un des problèmes permanents d'Emmanuel Macron. Il ne sait pas parler aux Français comme, par exemple, un Jacques Chirac savait parler aux Français. Chez Emmanuel Macron, c'est toujours sophistiqué, construit, même parfois trop. Et parfois, il faut se reprendre à deux ou trois fois pour savoir ce qu'il a voulu dire. Donc, ce cadre-là excluait toute démarche électorale.
Jean-Marie Colombani, vous avez dit sophistiqué et Sophie a tiqué.
Oui, j'ai tiqué à ce moment-là parce qu'il me semble que le style évolue. Que le style d'Emmanuel Macron évolue. Alors évidemment, c'est un discours offensif, c'est un discours pour l'histoire, un discours alarmiste, bien sûr, mais où on voit apparaître son bilan personnel en parallèle de l'évolution des idées européennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait toujours le même intellectualisme, j'ai envie de dire, lorsqu'il part, par exemple, j'ai noté les choix hamiltoniens, gramsciens, etc. Donc vous voyez, c'est très intello. Et puis quand même, il évolue, il incarne de plus en plus, et il parle au français à ce moment-là, puisqu'il dit à un moment donné, je n'appliquerai pas la méthode bruxelloise, c'est le choix entre la guerre et la paix, et lorsqu'il parle surtout des populistes et des nationalistes et de l'immeuble, vous avez bien compris cette image sur on occupe l'immeuble, mais on ne paie pas les charges de copropriété, on ne paie pas le loyer. Ça, c'est très incarné. Alors ça parle aux Français.
C'est la seule concession faite.
Et oui, mais c'est nouveau.
C'est la seule concession faite à un discours que tout le monde pouvait comprendre.
Et tout le monde l'a retenu.
C'est vrai.
Donc, il a évolué.
Vrai, oui,
donc, il a évolué. Il me semble qu'il est moins intellectuel dans la deuxième partie
mais
de son discours.
Ce qui est intéressant, c'est que si on se rapporte au premier discours de la Sorbonne, celui de 2017, il a été quand même, il a été soutenu ou concrétisé par les événements. C'est rare d'avoir des événements qui viennent comme ça au secours d'un discours qui était un discours, alors pour le coup, au début de son premier quinquennat, très théorique et très, je veux dire, voilà le cadre que je dessine, le cadre idéal que je dessine. Les événements sont venus là pour conforter tout cela et faire avancer l'Europe à une vitesse que personne n'aurait pu envisager autrement. Donc il essaie aujourd'hui de rééditer cet exploit en pensant que la guerre va obliger en effet l'Europe à franchir de nouvelles étapes. Et c'est là qu'il a été d'ailleurs le plus bavard, c'est-à-dire sur l'idée d'une initiative européenne de défense et sur la façon dont on devrait construire une défense européenne. Ce qui est un énorme problème pour beaucoup de nos partenaires, parce que qui peut penser que la France seule peut protéger les frontières des pays baltes? Je veux dire, donc on est quand même toujours dans l'OTAN et dans un partenariat principal avec les États-Unis. Donc, mais là, il prend en compte le fait que l'Europe est vraiment physiquement, peut-être physiquement menacée, pour lui dire, ben voilà, il est temps maintenant de se doter d'une défense européenne qui tienne la route, même si c'est le pilier européen de l'OTAN.
Alors, on est à peu près d'accord sur le fait que c'était pas un discours de campagne pour suppléer Valéry Ayet. C'est plutôt un discours qui a posé des thèmes dont les oppositions étaient susceptibles de s'emparer. Sophie Obadia, est-ce que vous pensez que dans cette rhétorique et dans cette pédagogie européenne, il y a de quoi faire bouger les électeurs, que ce soit des électeurs souverainistes, des électeurs de droite, de gauche, pro-Macron, anti-Macron, pour les inciter à s'emparer de cette élection européenne? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet de levier, comme on dit en économie?
Alors, ce n'est pas le discours qui le permettra, mais quand même, cette entrée en campagne devrait, et je l'espère, poser sur la table les grands débats qui nous attendent. Parce qu'à chaque fois, et je le regrette toujours, nous ratons le débat des élections européennes. Donc je trouve que de rappeler le tragique qui est arrivé dans l'histoire européenne depuis quelques mois, tout en disant quand même qu'on a su dépasser la crise du Covid, qu'on a su quand même se réunir autour de cette crise incommensurable, et reparler de la guerre en Europe, reparler d'une forme de protectionnisme, parce qu'il en parle finalement beaucoup du protectionnisme. Ce qu'il propose, c'est finalement pas très loin de ce que propose Joe Biden.
Oui.
Donc c'est assez important. Je pense que oui, ouvrir les portes du débat et dire voilà ce que nous voulons notamment pour les jeunes, puisqu'il en parle aussi, et nous devons en parler. Qu'est-ce que sera l'Europe pour les jeunes qui l'attendent? Comment allons-nous continuer à la construire? Et je pensais à Mario Draghi qui lui dit nous n'avons toujours pas le logiciel de l'Europe au XXIe siècle. Donc je pense que le débat, il faut que nous l'ayons maintenant. Nous n'allons pas encore rater cette échéance.
Par ailleurs, il y aura d'autres débats sur les frontières de l'Europe, parce que les frontières telles qu'elles sont, elles sont à 27, mais probablement avec d'autres pays qui vont rentrer, il faudra probablement changer les cadres, c'est-à-dire revenir à une Europe concentrée pour un certain nombre de pays, et puis à une structure plus large, comme il l'a d'ailleurs posé les jalons de cette structure plus large avec la communauté politique européenne, pour accueillir les autres. Donc on est au-devant de transformations majeures. Ce qui était aussi très nouveau chez Emmanuel Macron, c'est la remise en cause du modèle actuel. Donc il est allé jusqu'à dire qu'au fond, nous, Européens, nous étions plus naïfs que les autres sur le plan commercial. Nous étions plus écolos que les autres, parce qu'on était avec des normes beaucoup plus fortes et exigeantes que les autres. Nous étions plus sociaux que les autres. Et tout cela était, en disant, tout ça est un peu remis en cause. Donc là, il a ouvert une brèche dans les credos habituels de l'Union européenne, qui est considérable.
Donc un nouveau débat.
Le problème, c'est qu'il lui reste 2 ans et demi. Et qu'il ne sera pas, il ne peut pas à nouveau être candidat. Donc ça risque de rester un discours pour l'histoire.
Une question tout de même sur l'insécurité. C'est un discours largement fondé sur la notion d'insécurité en Europe, d'insécurité européenne, des États européens, du modèle européen. Parler d'insécurité européenne à des électeurs qui sont beaucoup plus concentrés sur l'insécurité intérieure, l'insécurité nationale, est-ce que c'est le bon calcul? Ou est-ce que nos concitoyens, vont pas être tentés de se tromper de débat, en vérité, à l'occasion de cette élection européenne, Sophie Obadia?
C'est pour ça qu'il leur dit, vous avez le choix de ne pas être nationaliste. C'est-à-dire de dire, voilà, vous venez dans le débat européen parce que la sécurité, nous la trouverons nous tous en Europe. Donc je trouve que c'est assez intéressant, cette césure entre l'individu, le nationalisme en France, dans les frontières françaises, et le débat européen, qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble.
Ceci dit, les électeurs français peuvent rétorquer à Emmanuel Macron, vous avez le choix de vous intéresser à nos problèmes de sécurité ou à notre sentiment d'insécurité intérieure.
Mais de fait,
ils peuvent lui répondre ça.
Oui, mais le 9 juin, ce sont les élections européennes et il parle quand même des frontières.
De fait, le problème, c'est que les déterminants du vote aujourd'hui sont des déterminants nationaux. Les gens ne se vont pas se définir par rapport aux enjeux européens, malheureusement. Ils vont se définir par rapport à... Et c'est là qu'on voit dans les intentions de vote prêtées à Jordan Bardella. Une bonne partie de l'opinion se définit contre Emmanuel Macron, qu'elle veut à nouveau sanctionner. Et donc, ces échéances, ces préoccupations internes, pouvoir d'achat et autres, dominent largement sur les enjeux européens qui sont pourtant... essentiel. Et on va à nouveau sans doute passer à côté de cela. Hormis quelques opposants, je pense à Raphaël Glucksmann, qui dans ses propositions exprimées la veille du discours présidentiel correspondent à peu près, c'est pratiquement superposé, on peut superposable à ce qu'a proposé Emmanuel Macron.
C'est exact.
Jean-Marie Colombani, est-ce que vous êtes bon danseur ?
Non.
Vous me surprenez. Non. Sophie Obadia, vous avez tiqué sur un papier de Marianne qui vous a donné la nostalgie.
J'ai épousé une danseuse.
Ah, ça c'est bien. Une danseuse classique ou une danseuse
classique.
Une danseuse classique.
Absolument.
Donc, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas rivaliser.
Alors vous
donc,
en êtes.
On peut me pardonner.
On vous pardonne. Sophie, vous disiez que on ne dansait plus après la lecture d'un article de Marianne qui vous a touchée.
Oui, qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai envie de dire alors on danse parce que c'est quand même la dernière chose qui nous relie à la vie. Et je crois qu'effectivement, il y a une vraie problématique qui est exposée dans cet article très intéressant. Les phénomènes TikTok, des enfants qui se filment ou des jeunes adolescents qui se filment en train de danser tout seuls en réalité, avec personne. Et c'est donc un vrai sujet, puisque après le Covid, on s'est aperçu qu'un dancing ou une boîte de nuit sur deux avait fermé. Il n'y avait plus d'endroit pour se réunir et que donc il fallait se montrer en vidéo. Donc on sait quand même que la danse, c'est un invariant civilisationnel. C'est important de danser. Avant, il y avait un bal tous les samedis soirs pour enfin sortir de la semaine et s'amuser ensemble. Et ce qu'on remarque, et ça encore c'est alarmant, c'est que la danse aujourd'hui, c'est un segment de marché, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a un type de danse, en province, il y en a un autre. D'ailleurs, Jérôme Fourquet en avait parlé pour, vous savez, les danses folkloriques américaines. Et c'est assez triste parce qu'on ne se retrouve plus pour danser, on ne se rencontre plus, il n'y a plus de mélange. Et moi, je le regrette intensément parce que danser, c'est rencontrer l'autre.
Sophie Obadia, Jean-Marie Colombani, merci. Nous allons nous quitter puisque Sophie veut danser avec du jazz. Et Count Basie, né il y a exactement 120 ans. C'était donc un 26 avril 1904. Jazzman génial, surnommé la machine à swing. On écoute son Lil Darling qui serait plutôt un slow, Sophie. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois.